Bonjour.
Merci, ça
va, avec grand plaisir, merci à vous. Alors, je pense avant toute chose que l'objectif était peut-être de mettre en lumière ce métier de l'ombre. C'est vrai que nous sommes appelés dans des situations qui sont parfois inextricables, des situations très complexes. Et puis finalement, c'est de rendre hommage à ce métier qui est assez, on va dire, nouveau, puisqu'il a maintenant une dizaine d'années. Donc l'ouvrage se destine justement à mettre en lumière ce métier.
Et alors, c'est votre 12e ouvrage. Mmh.
Alors les ouvrages que j'ai pu écrire jusqu'à présent sont assez techniques, que ce soit sur la négociation complexe, la détection du mensonge, la gestion des profils difficiles. Cet ouvrage parle de négociation, mais sans angle technique. Donc ce sont des histoires de négociation, voilà, qui ont un dénominateur commun. Souvent, c'est vrai que la réalité peut dépasser un peu la fiction, parce qu'on est amené à gérer des situations particulièrement difficiles et on s'interroge même quelques années après en se disant « mais comment on a pu gérer tout ça ?» Donc la particularité, la singularité de cet ouvrage, c'est qu'avant, c'est un ouvrage qui parle à tout le monde, qui se lit en, je pense, 3-4 heures. C'est 8 histoires de négociations qui m'ont marqué. Je les ai sélectionnées également parce que certaines m'ont abîmé, d'autres m'ont poussé à me transcender. En tout cas, j'ai appris de chacune d'entre elles et l'ouvrage, justement, encapsule ces 8 histoires que j'ai voulu livrer au lecteur.
Et alors là, vous nous dites qu'il n'est pas technique, donc concrètement, c'est comme un recueil de nouvelles, finalement, on passe d'une histoire à l'autre, d'un coin du monde à l'autre, avec à chaque fois une galerie de personnages, presque une intrigue, on pourrait dire, à chaque fois. Pourquoi vous n'êtes pas allé justement sur les aspects techniques cette fois-là, qui constituent une grande partie du métier de la négociation, j'imagine, en plus?
Alors, tout à fait, l'aspect technique en négociation s'arroge, on va dire, à minima 70, 80, peut-être même 90% d'une négociation. Tout dépend de sa complexité et du niveau de position de la partie adverse. Alors, pourquoi pas d'ouvrage technique? Parce que j'ai déjà écrit 2 ouvrages techniques sur ce sujet-là. Donc le but n'était pas de rajouter une couche supplémentaire, mais encore une fois, finalement, c'était simplement de faire connaître ce métier. Donc comme vous le disiez juste avant, je dirais plutôt que cet ouvrage est un témoignage. J'embarque le lecteur à mes côtés en lui faisant partager mes doutes, mes prises de décision difficiles. Évidemment, je parle un peu de technique. Parce que quand il est nécessaire d'aborder un profil complexe ou de retourner un rapport de force défavorable, je suis obligé de partager ce que j'ai pu faire, mais sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet du livre. Ce qui est intéressant, c'est quand vous parliez d'intrigue, certaines histoires me marquent, m'ont beaucoup marqué, et j'y pense encore souvent. Et donc finalement, c'est de rêver, de pousser le rideau. Voilà, pour entraîner le lecteur à mes côtés et lui faire partager ce que j'ai pu vivre à l'époque.
Alors là, on comprend le travail de recul qui a été pris sur ces différentes histoires-là. En vrai, quand vous vivez ces négociations-là, comment ça se passe? Vous avez un carnet où vous notez des faits saillants, des anecdotes, vous les partagez, vous les enregistrez? Comment vous gardez des traces finalement de ces négociations?
Alors, toutes nos négociations sont débriefées et à titre personnel, toutes mes négociations sont consignées par écrit. Simplement pour une chose, c'est pour ne pas oublier. Et un principe de base en négociation, si vous n'apprenez pas du passé, vous êtes condamné à le reproduire. Au-delà de ces négociations, ce qui est intéressant également, c'est de déconstruire ce que j'ai pu vivre, parce que le but, évidemment, c'est que si par la suite je devais être confronté à ce type de situation, je pourrais puiser naturellement dans mon répertoire d'expériences vécues en me disant mais qu'est-ce que j'avais bien fait et qu'est-ce que j'avais mal fait. Et puis aussi le fait finalement d'encapsuler ces histoires dans un ouvrage, ça vous permet aussi d'aller dans le détail de ce qui s'est passé, parce que finalement, notre mémoire, par moment, peut nous faire défaut. Et cet effort pour produire des lignes en se remémorant ce qui s'est passé, ça vous permet surtout de ne pas oublier. Et au-delà de tout ça, évidemment, le but, c'est qu'il y a une, je dirais, il y a un objectif aussi de partage, parce que en tant que négociateur professionnel, on a cette responsabilité aussi, finalement, de rendre accessible notre savoir au plus grand nombre. Alors, quand je dis savoir, hein, je le dis évidemment avec toute l'humilité qui s'impose, mais sur beaucoup de situations, on peut douter. On peut considérer quelquefois qu'on n'aura pas les ressorts psychologiques, que la technicité sera insuffisante compte tenu du degré d'opposition de la partie adverse, du rapport de force défavorable, du mandat limitant. Eh ben, ce qui est génial, c'est de se dire par moment que ben, on peut aller au-delà de l'impossible et que ben, quelquefois, l'alignement des planètes et tout ce qu'on a bien fait en amont nous permet de faire la différence. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je pense que c'est compliqué de répondre à cette question parce que tant qu'on est sur le terrain, moi, je passe encore 50% de mon temps sur le terrain, que ce soit sur de l'assistance dans l'ombre ou de la conduite de négociation, dès lors qu'on me confie un mandat. Donc, je dirais que toutes les négociations, elles me marquent parce qu'à chaque fois, vous évoluez dans des environnements très, très dégradés, très différents. Vous découvrez des métiers, des contextes. Mais si je dois vraiment choisir une, évidemment, elle est dans cet ouvrage parce que ce sont les 8 qui m'ont, je dirais, les plus marqués, notamment dernièrement. Je dirais que c'est l'extorsion. C'est la dernière histoire que je partage volontairement dans cet ouvrage. C'est une extorsion qui m'a beaucoup marqué parce que, évidemment, le niveau de pression était monstrueux. Les impacts financier, humain, était bien au-delà de ce que j'étais capable d'imaginer. Donc j'avais une pression sur les épaules qui ne m'a jamais quitté pendant toute la négociation. Et on est parti de tellement loin, avec très peu de chance de faire la différence. Et au final, quand je regarde le résultat, donc je ne spoil pas évidemment, ben oui, j'ai eu un sentiment de satisfaction très élevé, même de fierté. Parce que j'ai dû faire un grand écart énorme entre la situation que j'ai dû hériter, voilà, et la fin qui a pu satisfaire tout le monde. Donc oui, quand vous êtes sur des négociations qui concernent plus de 10 000 personnes et avec des impacts supérieurs aux milliards, évidemment, vous ne pouvez être que, on va dire, que humble face au poids justement de cette situation. Et puis aussi, ça vous permet de vous dire que finalement, même quand il n'y a plus beaucoup d'espoir, il en reste toujours un peu.
Et alors ça, quand on traverse comme ça au fil des années des négociations, est-ce que ça a modifié le regard que vous portez sur les choses? Est-ce qu'on se dit, alors attends, le truc, ça peut encore cacher des choses pas possibles, ou est-ce qu'on est plus frileux, ou au contraire, est-ce qu'on ouvre son esprit en disant que tout est possible?
Alors, je pense qu'effectivement, on ouvre son esprit en disant que tout est possible. C'est parce que moi, ce que j'ai pu finalement apprendre tout au long de ma carrière, alors qui n'est pas encore terminée, mais là, je parle avec près de 25 ans de négociations derrière moi. Je me dis souvent que l'homme avec un grand H n'a de limite que son imagination. C'est vrai que même au bout de 25 ans de négociation, je peux être encore surpris, étonné, même abasourdi, évidemment abîmé, en me disant « mais comment on a pu faire ça ? Comment certaines personnes ont pu faire ce genre de choses ?» Notamment pour l'extorsion dont je parlais à l'instant. Oui, on est toujours un peu surpris, mais ce qui est important finalement, c'est de garder cette petite part de candeur, parce que le risque, c'est de fonctionner avec des schémas trop établis, trop rigides. Et on se dit, bon, évidemment, cette situation, je l'ai gérée des dizaines de fois, voilà, que ce soit dans le cadre de conflits sociaux, de négociations commerciales ou bien ou de crise. Et puis, vous dites, ouais, je sais à peu près comment ça va se produire. Et là, alors, c'est ça, effectivement, la grosse erreur. C'est l'écueil dans lequel il ne faut surtout pas tomber, parce qu'encore une fois, ce qui définit la complexité d'une négociation, c'est l'incertitude. Vous n'êtes pas dans la tête des gens que vous allez avoir en face de vous. Donc il faut garder, je dirais, cette ouverture d'esprit pour être évidemment quelquefois fortement surpris, étonné, et aussi pour ne pas être déstabilisé, parce qu'encore une fois, tout est possible.
Est-ce qu'on est positivement surpris
parfois ? Alors, oui, on peut l'être, mais de mon expérience, effectivement, on est plus désagréablement surpris qu'autre chose. Alors, encore une fois, je regarde le monde de mon œil. Le risque, c'est d'analyser le monde à l'aune de son métier, ce qui serait une erreur. Si un croque-mort devait analyser le monde à l'aune de son métier, évidemment, il aurait peu d'espoir dans l'homme. Donc, évidemment, comme je gère des situations dégradées, je sais que mon regard est biaisé, notamment par ce prisme-là. Mais force est de constater qu'effectivement, je suis plutôt désagréablement surpris. Après, maintenant, j'ai eu des surprises, j'ai eu des épiphanies, des révélations, j'ai rencontré des gens exceptionnels, voilà, et c'est la force également de ce métier-là, parce que sur une année, entre les personnes que je forme et puis les négociations que je peux mener, je vais rencontrer, je dirais, plus de 1000 personnes différentes, donc ça, c'est une vraie chance, et justement, j'en parle dans cet ouvrage, et je pense qu'il y a peu de métiers qui permettent d'avoir ce niveau de rencontre. Et donc, c'est pour ça que je retiens surtout ça, finalement. C'est ces belles rencontres. C'est ce qui vous permet aussi de repartir.
Et dans le bouquin, quand on lit ces nouvelles, ces histoires, ces négociations, on se dit parfois, mais non, c'est un film, en fait, l'histoire. Est-ce que la réalité s'en approche ou la réalité dépasse ce côté rocambolesque qu'on retrouve ?
Alors, c'est vrai que ces histoires, elles peuvent parfois dépasser l'entendement. Alors, je ne sais pas si elles dépassent la fiction, mais quelquefois, elles peuvent dépasser au moins l'entendement. Mais encore une fois, tout dépend où on positionne le curseur. Quand je raconte ces histoires des membres de mon équipe, c'est vrai que quelquefois, on peut me dire « Oh, mais c'est pas possible, c'est digne d'une série Netflix ». Alors, le dénominateur commun de toutes les histoires que j'ai pu coucher dans cet ouvrage, c'est qu'elles ont toutes été minorées. Ce qui veut dire que dans la vraie vie, c'était encore pire. Pourquoi ? Parce que si j'avais dû raconter exactement tout ce qui a dû se passer, j'aurais révélé, à mon insu, des institutions, des organisations ou des personnes. Ce que je ne souhaite pas, c'est pour ça qu'en l'occurrence, ces histoires, elles ont toutes été blanchies. Elles sont toutes réelles, elles sont toutes conformes à ce qui a pu se produire, même si elles ont été un petit peu minorées. Mais en l'occurrence, j'ai changé volontairement le nom des personnes et puis des organisations concernées. Donc oui, c'est vrai que quand je prends un peu de recul et j'analyse ces histoires-là et que je les raconte, je me dis « Ah oui, c'est vrai que quelquefois ça dépasse l'entendement ». Mais je dirais que c'est la beauté aussi de ces histoires et c'est ce qui fait peut-être la richesse de l'ouvrage.
Qu'est-ce que le lecteur, quand il a reposé ce livre après avoir fini, qu'est-ce qu'il va apprendre en fait ?
Alors, je pense que le lecteur, en plongeant au cœur de ces négociations complexes, va finalement s'imprégner un peu plus des méandres de la psychologie humaine, parce que finalement, vous gérez de l'homme derrière tout ça. Et donc, toute la difficulté, c'est de le cerner. Je pense aussi, tout comme la réflexion que j'ai pu me faire à l'époque sur chacune de ces négociations, c'est que mais comment on en est arrivé là ? Comment des personnes, des organisations, sens très large du terme, sont capables d'en parvenir là ? Donc, effectivement, il y a toujours un effet un peu surprise, waouh, en disant « Oh là là !» Donc, le but, c'est que ces négociations, émotionnellement, elles m'ont marqué. Donc, j'ai déjà eu des retours de personnes qui ont déjà lu l'ouvrage, qui m'ont fait les mêmes retours. Visiblement, ça les a beaucoup marqués à tous les niveaux. Donc, c'était, je dirais, au moins si j'ai réussi à transférer une partie de l'émotion que j'ai pu vivre à l'époque, je dirais que finalement, je suis assez, je dirais, satisfait, parce que c'était le but également de l'ouvrage. Et puis, ce que le lecteur aussi pourra retenir, je dirais, c'est finalement la technicité de ce métier. Souvent, on considère que la négociation, c'est d'être un bon communicant, c'est d'être empathique, assertif, d'avoir une bonne gestion du stress, voilà, une bonne maîtrise émotionnelle, et que la négociation, finalement, c'est du soft skill, voilà, un peu tout ce que je viens de vous dire. Et à contrario, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc oui, évidemment, il faut une bonne gestion du stress, une bonne maîtrise émotionnelle, beaucoup d'empathie. Ouais, c'est la base, finalement, de toute relation interpersonnelle, mais ce qu'on voit dans ces 8 histoires, c'est que tout ça, je dirais que c'est le prérequis minimal. Tout le reste, encore une fois, ça reste de l'expertise et beaucoup d'expérience. Donc voilà, si je pense qu'ils retiendront, du moins je l'espère, que la négociation est avant tout un métier d'expérience, mais surtout d'expertise.
Est-ce qu'il y a un message, vous, en plus, que vous voudriez faire passer sur la nature humaine, sur la complexité, sur la façon dont les gens réagissent, sur la façon dont ils pourraient se prémunir de tout ça, ce que vous avez vu
Alors, je me dirais, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours tenté de garder à l'esprit, c'est que les limites des autres ne doivent jamais devenir les vôtres. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je suis appelé sur des situations difficiles, évidemment, généralement, il reste plus beaucoup d'espoir. Et quand on me relate le contexte, quand on me fait part des difficultés que ces personnes-là ont pu avoir en négociant directement, souvent, finalement, malgré eux, ils me disent que la négociation est pliée, il n'y aura plus d'espoir. Donc évidemment, moi, je ne peux pas partir en négociation avec ces éléments de langage, parce que sinon, ça va naturellement constituer des barrières mentales, et je sais que je vais échouer. Donc souvent, pour me départir finalement de ces éléments qui sont un peu négatifs, je me dis, et encore une fois, ça n'engage que moi, que finalement, les limites des autres ne doivent jamais devenir les miennes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.